en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Madame le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, comme le rappelait à l'instant Madame le Président, c'est un double honneur que vous me faites en m'accueillant aujourd'hui, puisque je suis déjà venu en cette salle en juin 2012. Vous parlez de la situation actuelle des religions en Chine et sans doute le sujet, plus peut-être que la personne qui en parlait, a retenu votre attention, ce qui justifie cette nouvelle invitation. Alors face au thème très large qui m'était proposé par Madame le Président, j'ai choisi de discuter, de vous présenter quelques éléments, sans doute assez inattendus, et l'effet inattendu que j'espère permettra peut-être d'ouvrir de nouvelles voies pour réfléchir à ce qu'est le destin religieux de la Chine contemporaine en prenant une perspective historique qui, j'espère vous rassurer en vous disant qu'elle ne remontera pas trop loin, pas aux origines de la civilisation chinoise, mais en tout cas à l'époque moderne. Et je vous parlerai surtout des élites chinoises de la dernière dynastie, la dynastie des Qing, d'origine manchoue, qui donc domina le monde chinois depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Alors, en choisissant de vous parler de la religion des élites chinoises, donc à la fin de l'époque impériale, avec plusieurs prolongements jusqu'à l'époque contemporaine, que j'évoquerai ici ou là, et surtout à la fin de ma présentation, je ne souhaite pas remettre au goût du jour les grands débats qui ont agité le monde universitaire il y a maintenant une génération autour de l'opposition entre religion des élites et religion populaire, même si ces débats qui se sont quelque peu apaisés depuis ne sont pas entièrement clos et ont permis de renouveler notre réflexion au sujet des faits religieux. Il s'agit surtout d'évoquer un malentendu ou peut-être un angle mort de notre connaissance de la culture et de la société chinoise moderne et contemporaine, malentendu qui a en bonne partie été initié par des projets de réinvention du confucianisme comme essentiellement un projet philosophique, projet de réinvention qui se sont déployés tout au long du XXe siècle et qui continuent à être très actifs aujourd'hui, mais qui ne nous permettent pas de comprendre si on accepte ces projets de réinvention comme pouvant fournir une définition normative de ce que c'est que le confucianisme, ne nous permettent pas de comprendre, en tout cas d'appréhender d'une façon globale et satisfaisante de ce qu'était le monde religieux, la vision du monde, les espoirs, et même, pour utiliser un terme un peu plus technique, la sotériologie, l'espoir de salut, les visions du salut individuel et collectif, que partageaient les élites chinoises et qu'ils continuent dans une certaine mesure à partager aujourd'hui. Des travaux très récents, et je pense en particulier au très beau livre de Sébastien Biou et Joël Toraval, « Le sage et le peuple », paru en décembre aux presses du CNRS, vise précisément à remettre en question cette vision du confucianisme que l'on a tenue comme étant une bonne définition au travail de ce que c'est que le confucianisme pendant très longtemps, et à montrer qu'il a beaucoup plus de formes, de richesses et de dimensions religieuses que ce que l'on pensait. Mon propos ici s'inscrit dans la continuité de ce travail en lui apportant peut-être davantage encore d'éléments de continuité historique. Donc, je commencerai ma présentation un petit peu loin peut-être, très brièvement au XIIe siècle, mais pour nous amener très rapidement vers des périodes plus récentes. C'est autour de cette période clé du XIIe siècle que certains historiens ont appelé la première modernité chinoise, que l'on voit apparaître une nouvelle technique de production de textes, l'écriture révélée. Plusieurs termes chinois, dont je vous épargnerai l'énumération, décrivent cette technique. Il s'agit d'une technique médiumnique. Le médium est possédé par une divinité, On dit parfois que simplement sa main ou son bras est possédé et il écrit des textes au nom de la divinité qui peut ainsi communiquer avec les humains et leur donner des instructions, instructions qui peuvent être très personnalisées, des conseils, des injonctions à tel ou tel adepte, mais aussi avoir une portée beaucoup plus générale. Et c'est comme cela que ont été produits les livres de morale qu'évoquait à l'instant Madame le Président. Les personnes qui pratiquent cette technique médiumnique et qui, je voudrais insister sur ce point, continue aujourd'hui à être extrêmement pratiqué. Un temple qui se trouvait à Bagnolet a dû fermer récemment parce que le médium ne pouvait plus continuer son travail, mais on produit aussi des textes par cette technique dans notre pays. Et les groupes pratiquant l'écriture inspirée sont extrêmement nombreux dans l'ensemble du monde chinois. La technique est interdite en Chine populaire, mais elle est néanmoins pratiquée à très large échelle de façon plus ou moins discrète. Les personnes qui utilisent cette technique donc, pour produire des textes se rassemblent au sein d'institutions plus ou moins durables, plus ou moins structurées, que l'on appelle souvent les hôtels du Dao, Tao Tan, où l'ensemble des membres sont reconnus individuellement comme des disciples de la divinité ou des divinités qui révèlent des textes par leur truchement et qui les acceptent comme un guide personnel. C'est-à-dire qu'il y a une dimension personnelle très forte dans ce rapport entre le disciple humain et le maître divinité avec un contact très régulier qui souvent s'étend tout au long de la vie des individus et qui leur fournit une sorte de guide spirituel. L'inspiration eschatologique très forte, et sur laquelle je reviendrai dans un instant, marque aussi tous ces groupes dans toute leur diversité. Et là, je suis bien entendu, en tentant de résumer en une demi-heure environ, quelques 8 siècles d'histoire intellectuelle, religieuse, politique et sociale de la Chine, je rassemble une très très grande variété de groupes donc sous cet idéal type. Donc dans ces différents groupes, l'inspiration eschatologique, bien que variable, est souvent très nette. C'est inspiration eschatologique qui justifie la révélation. C'est parce que les temps sont mauvais, parce que la menace des punitions divines pèse sur l'humanité, parce que la situation de dégénérescence morale des humains est arrivée à un stade très avancé, que les dieux prennent l'initiative de ces révélations afin de montrer aux humains une voie de salut. Quel type de textes ont été produits de cette manière-là, sachant que le corpus est absolument immense, il couvre des centaines de mètres dans nos bibliothèques sinologiques, sachant que n'ont été réimprimés et rendus disponibles sur le marché du livre international qu'une petite fraction de cette littérature en perpétuelle expansion est absolument immense. Et encore une fois, qui continue à croître jour par jour. Les textes révélés sont maintenant publiés sur Internet et on peut voir chaque jour de nouveaux textes fleurir qui nous parlent du discours des dieux sur l'évolution de notre société en temps réel, si j'ose utiliser cette expression. Donc on trouve des livres de morale qui enjoignent les humains à modifier leur comportement et à observer un certain nombre de règles morales en les menaçant de punitions divines s'ils ne le font point. Des livres donnant des instructions en matière de techniques de perfectionnement de soi, méditation, visualisation et autres techniques qui permettent d'accéder à un statut divin, j'y reviendrai également. La géographie des dieux qui parle d'eux-mêmes, pour se donner en exemple, aux humains qui sont leurs adeptes. De la liturgie, et en particulier un genre très important, très couramment pratiqué, qui sont les litanies de confession. Les litanies de confession sont un genre particulièrement intéressant dans la mesure où on peut les comparer, et l'exercice intellectuel de comparaison a été fait de façon très enrichissante, avec la confession, dont la portée est en large partie comparable, mais sur des bases très différentes, puisque la liturgie de litanie de confession dans la tradition chinoise est collective et non pas individuelle, et vise à couvrir l'ensemble des péchés, fautes ou erreurs possibles, plutôt que de rentrer dans le détail et la précision de ce que chaque individu a pu commettre comme péché. Enfin, parmi ce vaste ensemble de types de textes révélés, on trouve des grands textes cosmologiques qui reprennent tous ces différents éléments, la morale, le perfectionnement de soi, la liturgie, en les plaçant dans un cadre cosmologique qui permet de donner sens à l'histoire de la révélation et à l'intervention des dieux dans la société humaine. Alors, ce type de texte déploie de façon continue depuis au moins le XIIe siècle et sans interruption jusqu'à nos jours. Mais ce dont je voudrais parler un peu plus précisément aujourd'hui, c'est une phase très intéressante, un peu plus tardive, entre le début du XVIIIe siècle et le milieu ou la fin du XIXe siècle, que j'appelle une phase de canonisation, dans la mesure où ces vastes corpus de textes révélés par lesquels les dieux parlent aux humains a été rassemblé, compilé à l'intérieur de collections que l'on peut certainement qualifier du terme de canon pour chacune des principales divinités auteurs de ces révélations. Et en même temps que ces textes est passé donc par ce processus de sélection et de canonisation, les dieux eux-mêmes étaient aussi canonisés, cette fois au sens où ils recevaient un titre dans la bureaucratie divine, à la fois de la part de l'État impérial, parce que l'empereur en tant que fils du ciel avait ce privilège de donner des titres aux dieux, mais aussi de la part de l'Église taoïste, les deux fonctionnant en tandem, si l'on peut dire, pour mettre en place le panthéon divin. Donc au cours de cette période, 18e, 19e siècle, on assiste à la compilation et la publication de très vastes canons, comptant souvent de nombreux volumes, pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de pages, où les principales divinités s'expriment et mettent en place des systèmes qui sont à la fois des systèmes moraux, philosophiques, théologiques et des projets de salut pour l'humanité. Alors, en quelques mots, comment peut-on qualifier, comprendre, interpréter ce processus de canonisation qui occupe une grande partie, pas la totalité, certes, on trouve aussi des critiques face aux techniques de l'écriture inspirée, face à la publication de ces textes. De vastes débats occupent la meilleure partie du monde intellectuel chinois, mais beaucoup en sont membres. Donc comment comprendre ce mouvement qui emmène avec lui de si nombreux intellectuels, philosophes, poètes, hommes de lettres et hommes d'État? On peut sans doute l'analyser sur trois plans qui sont en étroite interaction les uns avec les autres. En premier lieu, il y a une dynamique sociale liée au fait que les groupes pratiquant l'écriture inspirée en viennent du fait notamment des contraintes que l'État impérial chinois fait peser sur la vie sociale, sur la formation, sur la possibilité de former des groupes, des sociétés, des associations en dehors du contrôle direct de l'État. Pour ces raisons donc, les groupes d'écriture inspirée deviennent une forme privilégiée, pas la seule bien sûr, mais une forme privilégiée de rencontres, de réunions, de vie sociale pour ces membres des élites, comprises au sens très large. On trouve en effet dans ces groupes, et les nombreux textes que j'évoquais à l'instant sont essentiellement donc des textes doctrinaux ou moraux, mais contiennent également de très nombreux éléments historiques, des préfaces, des récits, etc., qui nous permettent de bien comprendre le contexte social, l'identité des personnes qui sont livrées à ce très vaste travail de produire les textes révélés, de les publier, de les diffuser, car bien entendu, si une divinité transmet un texte, c'est le devoir de la personne qui la reçoit que de la diffuser le plus largement possible. Donc ces éléments historiques, ces textes qui nous donnent à voir le fonctionnement de ces groupes, que l'on peut également comparer à l'observation de terrain aujourd'hui, puisque encore une fois ces groupes, ce type de groupe reste extrêmement actif dans l'ensemble du monde chinois, il rassemble donc des personnes allant des plus hauts échelons des élites de l'Empire, les plus hauts fonctionnaires, je vais vous donner un exemple d'illustration dans un instant, jusqu'aux petits fonctionnaires et jusqu'aux membres de la société lettrée qui ont passé au moins le premier degré des examens, donc qui sont reconnus par l'État en tant que lettrés, mais qui n'ont pas pu accéder à la fonction publique. Et on estime qu'au tournant du XXe siècle, il existe en Chine, environ 5 millions de personnes ayant passé donc au moins ce premier degré des examens, donc faisant partie de cette classe de lettrés, si l'on y ajoute les membres de leur famille. Donc c'est une très très vaste population qui se retrouve dans ces lieux où, d'une certaine façon, les hiérarchies très strictes et pesantes de la bureaucratie civile ne sont certes pas oubliées, mais sont d'une certaine façon mise entre parenthèses, du moins rendue relative par d'autres hiérarchies qui sont celles du mérite religieux à l'intérieur de ces groupes. Et ces groupes deviennent donc une façon importante pour des lettrés locaux qui ne font pas partie de la fonction publique, mais qui, par leur rôle d'activistes, fondant des sociétés caritatives, philanthropiques, diffusant des textes, donc jouant un rôle important dans la production et la diffusion des textes, acquièrent un grand mérite et une grande réputation. Une dynamique sociale, donc, par lequel, donc, c'est très très nombreux groupes et des descriptions historiques que nous avons pour le début du XXe siècle nous disent que pour les parties de la Chine qui sont le mieux documentées, je pense en particulier à la région dite du Jiangnan, la région du bas fleuve Yangtze autour de Shanghai, Nankin, région particulièrement bien riche et particulièrement bien documentée, chaque village comptait un groupe de ce type où tous les lettrés, tous les gens qui avaient qui s'étaient formés au classique, sans nécessairement accéder à un très haut niveau de maîtrise de cette tradition lettrée, mais qui du moins avaient une certaine culture, se retrouvaient de façon systématique au sein de ces groupes, avaient un activisme moral, participaient donc à des actions caritatives, produisaient des textes, et pour certains d'entre eux, faisaient des rituels au bénéfice des membres du groupe, mais aussi de la société tout entière. C'est donc un mouvement de fond très très important pour comprendre la société chinoise dans son ensemble et en particulier ses élites lettrées donc depuis les débuts de l'époque moderne et jusqu'au début du XXe siècle. Et tous ces groupes locaux interagissaient entre eux de façon très intense. On voit très bien que les textes circulaient très rapidement. Ils étaient souvent repris, copiés, améliorés par d'autres groupes. Donc, avec la circulation aussi des lettrés et des marchands à l'échelle de l'ensemble du monde chinois et très rapidement à l'échelle internationale. On a de nombreux exemples d'un texte révélé au fond de la campagne du Hunan, disons en 1905, et d'être aussi l'année suivante ou deux ans après réimprimé à Bangkok, à Penang, à Manille, ou dans d'autres parties de ce qui était devenu donc un monde chinois étendu à l'échelle de presque de la planète. Et c'est encore, bien sûr, avec Internet, davantage le cas aujourd'hui. Une dynamique sociale, donc, une dynamique doctrinale également. On voit de nombreuses façons par lesquelles ces groupes pouvaient développer une pensée, un système doctrinal, mais l'une des voies de développement que l'on observe le plus fréquemment et que l'on peut encore observer sur le terrain de nos jours, on voit des groupes de ce type apparaître à chaque instant, donc on peut vraiment suivre avec une approche plus sociologique ou anthropologique la façon dont ce type de groupe se forme et se développe. On voit donc souvent que des groupes se forment d'abord pour permettre à leurs membres de développer des pratiques de perfectionnement de soi. Ils se rassemblent pour pratiquer ensemble la méditation, l'alchimie intérieure, ce type de pratique, d'abord orientée vers le salut de l'individu. Également pour la production et la diffusion de textes de morale. On les voit ensuite, au fur et à mesure qu'ils gagnent une certaine expérience dans la technique médiumnique, dans la révélation de textes, dans la diffusion de textes, on les voit produire des textes de plus en plus longs, de plus en plus élaborés, de plus en plus complexes du point de vue de la pensée et de la doctrine. Et souvent, dans un troisième temps, ils produisent enfin de la liturgie, c'est des textes qui leur permettent de rendre des services rituels pour le salut des individus, donc non seulement entre eux au sein du groupe, mais aussi de la société tout entière. À Hong Kong, par exemple, où ce type de groupe est tout à fait omniprésent dans l'espace social, religieux et caritatif, ils ont un rôle très important dans l'aide sociale à Hong Kong et dans l'ensemble de la Chine. On les voit, au bout d'un peut-être 10 ou 20 ans d'expérience, apprendre le rituel et aller gratuitement, à titre bénévole, à titre d'action charitable, faire des rituels, notamment des rituels funéraires, de salut des défunts, pour toutes les personnes, y compris les nombreux membres de leur groupe, qui en feraient la demande. Dynamique doctrinale, donc, qui passe d'un souci de soi, le souci de se diviniser, sur lequel je vais revenir, à un souci de la société, à un souci de l'autre, qui passe d'une réflexion sur le destin individuel à une réflexion sur le destin collectif. Dynamique politique, enfin, avec la reconnaissance des principales divinités révélant des textes, donc par le moyen de l'écriture inspirée, de la part de l'État impérial. Je passerai plus rapidement sur ce point, simplement en indiquant que la reconnaissance, le fait de conférer des titres, et souvent des titres extrêmement élevés, par exemple, Guandi, donc l'empereur martial, une de ses principales divinités, révélant des textes par l'écriture inspirée, a été élevé au même rang que Confucius, donc à un rang particulièrement élevé, particulièrement prestigieux au sein du panthéon de la Chine impériale à la toute fin de l'Empire. Et ceci était très lié au fait que, par ce moyen, par la canonisation des divinités, l'État impérial nouait une alliance avec ses dieux, bien sûr, qui les protégeaient, et aussi avec les communautés qui promouvaient le culte de ces dieux. Donc, dynamique sociale, dynamique politique sont évidemment très étroitement liées. Et ces mouvements de canonisation avaient souvent lieu pendant ou juste après des épisodes militaires particulièrement difficiles. On pense à la grande révolte du Lotus Blanc au tout début du XVIIIe siècle, et plus encore à la guerre des Taiping entre 1850 et 1864, qui reste la guerre civile la plus sanglante de l'histoire de l'humanité, avec sans doute environ 30 millions de morts. Et une guerre des Taiping pendant laquelle la plus grande partie des élites lettrées, les grands généraux qui se battaient donc pour l'Empire contre les Taiping, pratiquaient l'écriture inspirée et participaient à la création et la diffusion d'un discours eschatologique sur la nature même de la guerre comme étant une forme de punition divine envoyée à l'humanité pour ses péchés. Très rapidement, un exemple pour vous donner une idée de l'implication des plus grande personnalité de la fin de la Chine impériale dans ce mouvement, encore une fois, peu structuré, mais multiforme, mais extrêmement répandu, de production de textes par l'écriture inspirée. C'est l'exemple de Zhu Gui, personnage très intéressant, qui était un haut fonctionnaire, un jeune homme particulièrement brillant, puisqu'il a atteint le plus haut degré des examens de recrutement dans la fonction mandarinale à l'âge de 17 ans. Donc il commence une carrière qui l'amènera au plus haut poste, gouverneur de province. Et il a également été le précepteur de celui qui deviendra le futur empereur, l'empereur Jiaqing, ce qui, à la mort de son père, le célèbre empereur Qianlong, le placera de fait dans la position du deuxième homme le plus puissant de l'Empire, après l'empereur lui-même, et donc une des personnalités les plus marquantes de son époque. Ce Zhu Gui a, d'un côté, une carrière qui est bien connue par l'historiographie classique, dirons-nous, qui relève ses écrits, essentiellement en termes de philosophie politique, d'administration. Mais on a par ailleurs un autre pan de la vie de cet individu extrêmement dévot et qui a laissé dans d'autres genres et dans d'autres collections de textes des textes parlant de sa dévotion à plusieurs des divinités qu'on évoquait tout à l'heure, en particulier l'empereur Wenchang, empereur cette fois-ci au sens de titre divin, qu'il vénérait tous les jours et dont il a participé à la révélation de textes qu'il a édités et diffusés, textes pour certains d'entre eux ayant une très forte teneur eschatologique. Donc tout cela pour suggérer que, quand on parle des élites lettrées de la fin de l'Empire comme étant un groupe de personnes, disons, largement sécularisées, peu intéressées par les questions religieuses, c'est une vue très établie dans l'historiographie, mais qu'il faut sans doute nuancer à la lumière de ce type de textes, qui sont, c'est vrai, largement disponibles seulement depuis 10 ou 20 ans, qui étaient auparavant très difficilement accessibles, et qui éclairent d'une toute autre lumière la vision du monde, les convictions, les idées, et aussi les pratiques de ce type de personnes que l'on peut donc retrouver jusqu'au plus haut niveau de l'État. Donc, pour ce résumé, autour de ce mouvement de révélation de textes et de ce type de personnes, comme Zhu Gui tout à l'heure, qui est un exemple assez exceptionnel du fait de la carrure de l'individu, mais qui n'a absolument rien d'atypique en termes de conviction ou de pratique personnelle, ou parcours personnel, on peut dessiner ce que j'aimerais appeler une sotériologie des élites chinoises, dans lequel on retrouve cinq éléments que je vais brièvement évoquer. Donc, les pratiques de perfectionnement de soi, une morale que j'aimerais qualifier de puritaine, même si je reconnais très volontiers que le terme est un peu paraître étonnant. J'essaierai de le justifier, une dimension rituelle, un souci de divinisation de soi et enfin une eschatologie apocalyptique. Alors, premier élément, le perfectionnement de soi, je passerai très rapidement parce que nous rentrerions dans des éléments disons, techniques et relativement difficiles d'accès, mais beaucoup de ces groupes pratiquaient, enseignaient des méthodes de méditation et recevaient des instructions directes, donc via l'écriture inspirée, de la part de ces divinités, sur la façon de méditer sur les éléments de son corps. C'est ce qu'on appelle l'alchimie intérieure, qui sont des techniques de transformation de soi, visant, dans un premier temps, pour les étapes les plus préliminaires, à renforcer la santé physique, à acquérir la longue vie, mais très rapidement, à des étapes ultérieures, à accéder à l'immortalité et donc à une forme de transcendance, même si l'usage du terme dans ce concept est assez, disons, délicat. La morale, extrêmement importante, et les livres de morale donc, qui ont été produits par ces individus, par ces groupes, et qui continuent à circuler aujourd'hui très très largement. Ils sont aujourd'hui très largement diffusés par des groupes bouddhiques, ce qui n'a pas nécessairement toujours été le cas, mais ils développent un discours qui vise à trouver une synthèse de la pensée ou philosophie morale, et ce qu'on appelle les trois enseignements, donc les trois principales traditions religieuses et intellectuelles de la Chine classique, bouddhisme, taoïsme, confucianisme, et il se trouve qu'à l'époque contemporaine, ce sont les groupes bouddhiques les mieux structurés, les mieux organisés, et donc ce sont surtout eux qui diffusent ces textes, ce qui ne veut pas dire que ces textes soient purement bouddhiques, ils sont aussi bouddhiques, mais ils sont également confucianistes et ils sont également taoïstes. Et donc les institutions bouddhiques sont extrêmement efficaces dans la diffusion de ces textes, et dans les différents temples chinois de Paris et de l'Île-de-France, dont on compte maintenant une bonne cinquantaine, en rassemblant tous les types de lieux de culte, on trouve des quantités absolument considérables de ce type de livres de morale. Donc, quel est ce discours moral ? En évoquant très rapidement les principaux thèmes, la famille, bien sûr, et les rapports de genre, les rôles de genre à l'intérieur de la famille, les rapports entre époux et épouse, entre parents et enfants, entre frères aînés, frères cadets, et avec un accent, bien sûr, mis sur une morale qu'on a pu qualifier de très patriarcale. La morale sexuelle, thème extrêmement important, avec tout un discours de la part de ces groupes pratiquant l'écriture inspirée, donc au nom des dieux, visant à encadrer très strictement la sexualité, avec d'une part des efforts visant à la réduire de façon générale. On trouve dans les livres de morale des calendriers de jours interdits où plus de 200 jours par an, tout type d'activité sexuelle est interdit, donc vraiment des projets de réduction de la vie sexuelle pour l'ensemble de la population, et aussi, bien sûr, une dénonciation extrêmement forte de toute forme de sexualité hors du mariage, avec de façon intéressante, et c'est là que c'est un des points sur lequel le discours des morales des élites chinoises de la fin de l'Empire rejoint le puritanisme tel qu'il a pu se développer notamment dans le monde anglo-saxon, XVIIe et XVIIIe siècle, faisant de la sexualité illicite en faisant une analyse où les femmes sont essentiellement des victimes. Donc c'est un discours certes patriarcal, mais c'est un discours en même temps très intéressant socialement, mettant le blâme sur la sexualité illicite devant la porte des hommes en position d'autorité ou de pouvoir, et présentant les servantes, les jeunes femmes, les pauvres, les jeunes garçons également, comme des victimes de ces abus de pouvoir, de prédation sexuelle de la part des personnes qui correspond à la base sociale de ce mouvement, à savoir les hommes venant des familles aisées et disposant d'un certain niveau d'éducation. Les hiérarchies sociales, bien entendu, avec un discours, là aussi, qu'on peut qualifié de patriarcal et conservateur dans la mesure où une forte insistance est mise sur le fait de se satisfaire de son sort. Donc une critique très forte sur toute volonté de changer les rapports inégaux dans la vie économique et sociale. Une éthique du commerce très forte, qui est aussi évidemment étroitement liée à la base sociale de ces groupes, parmi lesquels les grandes familles marchandes occupaient une place particulièrement importante, et donc pour lesquelles une éthique du commerce et de l'activité marchande a été développée de façon très détaillée. La charité, donc le devoir de charité envers les pauvres, également des éléments de pureté rituelle et de respect pour les dieux, qui nous montrent bien que cette morale que certains historiens ont pu, en reprenant les thèses de Weber sur protestantisme et essor du capitalisme, ont pu qualifier d'une morale très sécularisée. C'est sans doute vrai en partie, mais il faut en même temps voir que dans ces textes, les questions de pureté rituelle et de respect des dieux restent extrêmement importantes. Donc il ne s'agit pas d'une morale de ce monde, détachée de traditions religieuses, il s'agit d'une morale où l'idée de la surveillance divine est omniprésente. L'idée que les phrases qui reviennent presque à toutes les lignes dans ces livres évoquent le fait qu'on peut être tout seul dans le noir, aucun humain ne vous voit, mais il y aura toujours des dieux qui vous observent. Donc un proverbe dit, à 3 pouces au-dessus de votre tête, il y a des divinités qui vous regardent. Donc l'idée que les humains sont en permanence pris dans ce système de surveillance divine, et qu'il faut donc aussi respecter les dieux parce qu'on est sous leur regard. Et puis, dernier point, la question de la vie animale et des tabous alimentaires qui sont également très présents dans toute cette production de discours, avec d'une part une dénonciation de groupes religieux que l'historiographie qualifie volontiers de sectaires, qui étaient entièrement végétariens, donc une volonté de se distancier de ce type de groupes religieux, en disant « nous ne sommes pas végétariens », mais en posant toujours comme une affirmation très forte le fait que prendre la vie, quelle que soit la forme, y compris d'un insecte ou de forme très inférieure de vie animale, est un péché, que parfois ce péché est inévitable, mais qu'il reste néanmoins un péché, qu'il faut donc le limiter autant que possible. Et une des façons de le limiter, c'est de respecter de façon absolue, donc y compris en instituant des tabous alimentaires, les formes les plus évoluées de vie animale, ce qui concerne particulièrement les bovins, les équins et les chiens. Donc tout ce discours de morale qui met en place un ascétisme intramondain, placé donc sous la surveillance permanente des divinités. Donc, ascétisme intramondain lié à une pratique rituelle intense que j'évoquais tout à l'heure autour de la question de la pratique des litanies de confession par lequel ces lettrés, individuellement ou collectivement, se pratiquaient très régulièrement la récitation de ces litanies, donc invoquant les divinités en leur demandant de pardonner ou d'effacer leurs péchés et rappelant donc la liste de tous ces péchés dont je viens de donner un résumé très, très succinct, qui sont donc au cœur de leur vision du monde. Divinisation de soi, qui est l'objectif premier pour la plus grande partie des personnes qui participent aux activités de ce qu'on appelle donc les Daotan, les hôtels du Dao, pratiquant l'écriture inspirée et cherchant à mettre en place au sein de la société leur programme de réforme morale. Alors, une théorie anthropologique très largement répandue au sujet du monde chinois veut que parmi les types d'êtres surnaturels, les habitants de l'autre monde, on trouve d'une part les ancêtres et d'autre part les dieux, et je laisse de côté les autres types d'existence moins désirables après la mort, et que les personnes ayant vécu une bonne vie, ayant une descendance, ayant accompli leur mission ici-bas, sont transformés en ancêtres, et que seuls ceux qui ont sans doute comporté de façon héroïque, mais qui ont été victimes d'une mauvaise mort, les soldats morts sur le champ de bataille, les héros trahis, assassinés, voilà, ce type de personnes, deviennent des dieux. L'observation reste assez largement juste, Finalement, si on regarde quels sont les dieux qui peuplent le monde chinois, on se rend compte que beaucoup, si ce n'est la majorité d'entre eux, ont été ces victimes de mauvaises morts, c'est qui deviennent d'abord des démons avant de pouvoir être transformés éventuellement en dieux et de monter dans la bureaucratie divine. Mais il faut fortement nuancer, je crois, cette observation en constatant que tout en voulant bien sûr devenir des ancêtres et donc de bénéficier du culte de leurs descendants, enfants, petits-enfants et descendants aux générations suivantes, de nombreux membres des élites à la fin de l'époque impériale et encore au XXe siècle souhaitent, pensent, espèrent, voire sont persuadés de devenir des dieux. On peut devenir un dieu de plusieurs façons différentes. J'évoque très rapidement d'abord l'ordination. On peut être ordonné essentiellement dans un cadre taoïste, même s'il existe également des procédures bouddhiques à cette fin. Être ordonné, c'est recevoir un titre dans la bureaucratie divine. Quand cela n'a pas été fait du vivant, cela peut être fait au moment des rituels funéraires. Et en réalité, la plupart des rituels funéraires, qu'ils soient pratiqués par les taoïstes ou les bouddhistes, et cela est vrai aujourd'hui comme ça l'est depuis de nombreux siècles, on reçoit un titre d'ordination, et d'ailleurs cela n'est pas propre au monde chinois, des choses tout à fait semblables peuvent être observées au Japon, en Corée, au Vietnam. On reçoit un titre au sein de la bureaucratie divine, donc qui vous donne ce statut de divinité. Les fonctionnaires de la fin de l'Empire étaient absolument persuadés qu'après leur mort, ils seraient promus comme ils continueraient leur carrière, traversant en quelque sorte la barrière de la mort d'une façon relativement souple et sans trop de heurts, et qu'ils seraient promus dans la bureaucratie divine, continuant à travailler. Une destination privilégiée était les fameux dieux des villes, les Changhuang, sachant que dans chaque ville où se trouvait le siège d'une administration, se trouvait le dieu de la ville qui était le partenaire naturel du fonctionnaire vivant, en charge donc de tel district ou préfecture, que la première chose que faisait un fonctionnaire en arrivant en poste était d'aller passer la nuit dans le temple du dieu de la ville pour lui prêter serment de travailler avec lui et d'observer leurs valeurs communes qui sont respect des populations, respect de la vie, application de la loi, non-corruption, équité, etc. Donc beaucoup de... Et on retrouve très très fréquemment dans les écrits des lettrés cette idée que, voilà, après leur mort, ils continuent à mettre en œuvre leur ethos, leur connaissance, leur savoir-faire de membres de l'administration civile, simplement dans l'autre monde, au service des dieux. Et de nombreux groupes pratiquant l'écriture inspirée, par ailleurs, divinisaient également leurs propres membres, et ça reste aujourd'hui un phénomène extrêmement courant, facile à observer. Un membre d'une génération antérieure d'un groupe pratiquant l'écriture inspirée, une fois décédé, fait partie des dieux qui va révéler, qui va dialoguer avec les membres de la génération suivante qui continuent à faire vivre ce groupe. Donc cette idée de divinisation de soi, elle est omniprésente et je crois qu'elle est très importante pour comprendre la façon dont ces élites chinoises voyaient le monde, voyaient leur mission et voyaient leur rôle au sein de la société. Alors si la divinisation de soi peut sembler être un élément optimiste d'une certaine vision du monde, il y a vraiment chez les traits l'espoir, la conviction qu'ils deviendront des dieux. Donc il y a cet optimisme. Il y a aussi l'autre côté de la pièce de cette vision du monde est un pessimisme très fort sur le destin collectif de l'humanité. Est-ce que si eux, en tant qu'élite, se pratiquant cette ascèse intramondaine, cette forte exigence morale, pratiquant le perfectionnement de soi, peuvent devenir des dieux, la plupart des humains n'ont pas les capacités ou la force morale d'en faire autant, se livrent à un nombre extrêmement élevé de fautes, d'erreurs et de péchés, et donc vont être punis par les dieux pour leurs fautes, punition qui peut danser dans les récits, dans les textes que ces groupes produisent, très aisément glisser, et la frontière est extrêmement floue entre les deux, entre la punition individuelle et la punition collective. Et il y a une idée de destin collectif qui est extrêmement forte et qui génère une inquiétude très marquée par rapport à la possibilité d'une apocalypse. Les récits extrêmement nombreux, depuis longtemps, mais qui se multiplient particulièrement depuis le milieu du 19e siècle, donc des récits nous raconte que la bureaucratie divine a décidé que c'en était assez, que les humains ont commis trop d'erreurs, de péchés, ont allé trop loin dans leur déclin moral, et que mieux vaut annihiler l'humanité et recommencer à nouveau un nouveau cycle, avec peut-être simplement quelques élus qui pourront, d'une certaine façon, faire la transmission entre les deux ères. Alors ce discours eschatologique, apocalyptique, existe depuis très longtemps. On en a déjà des sources très bien développées depuis le début de notre ère. Simplement, dans la formulation que leur donnent les élites lettrées à l'époque moderne et contemporaine, les éléments messianiques et millénaristes très très forts et qui continuent par ailleurs à exister dans d'autres traditions, dans d'autres formulations de la pensée eschatologique chinoise, ces éléments sont mis de côté par les lettrés, mis entre parenthèses, même s'ils ne disparaissent pas nécessairement totalement. Il y a toujours une apocalypse finale, mais elle ne peut plus être prévue, elle est plus inéluctable, elle est d'une certaine façon négociable entre les humains et les divinités, et c'est le rôle de ces groupes que de sauver l'humanité en mettant en place une œuvre de réforme morale collective, d'où l'aspect fortement prosélyte qu'ont ces groupes qui vont prêcher sur la place publique, qui diffusent les livres et qui essaient de mettre en place, par toutes sortes de moyens, incitatifs ou plus autoritaires, des tentatives de réforme morale de l'humanité afin précisément d'éviter l'apocalypse et de retarder donc ce moment où la décision des dieux de mettre fin à notre ère va arriver. Donc ces discours eschatologiques qui peuvent, et j'imagine volontiers, peut-être même d'une certaine façon, j'espère vous surprendre en disant cela, ce n'est pas une chose à laquelle on pense très spontanément quand on évoque la vision du monde des lettrés et intellectuels chinois de l'époque moderne, ces discours eschatologiques sont en réalité extrêmement répandus depuis les époques anciennes jusqu'au présent, même s'ils... Il faut reconnaître qu'ils ne suscitent pas nécessairement chez ceux qui les tiennent ou les entendent un sentiment d'anxiété ou de peur très aiguë de fin du monde. Comme ces discours, ces termes, ces concepts circulent très largement, ils sont reconnus, ils sont acceptés en tant que tels sans nécessairement être occuper une place centrale dans la vision du monde qu'ont les individus. Néanmoins, à certains moments où le monde réel tel qu'il est vécu par les individus peut donner l'impression d'une punition divine collective de l'humanité, ces discours-là sont réactivés. Ça a été le cas pendant le guerre des Taiping, ça a été le cas pendant des grandes famines qui ont suivi, je pense à la grande famine de Chine du Nord en 1876-1879. Ça a été le cas de façon très intéressante pendant la Première Guerre mondiale, qui a donné lieu en Chine même s'ils étaient des observateurs lointains, pour la évidemment, très grande partie d'entre eux, à la production d'un discours eschatologique extrêmement nourri et extrêmement répandu, et ça l'est encore de nos jours, qu'on suit un petit peu les mouvements religieux chinois, on voit que dès qu'il y a une catastrophe dans ce monde, par exemple la catastrophe de Fukushima, il y a quelques années, a donné lieu à un discours eschatologique très développé et très aigu de la part d'un très grand nombre de groupes religieux chinois, couvrant tout l'éventail des mouvements les plus sectaire, si on veut utiliser ce terme, envers lequel j'ai beaucoup de réserves, jusqu'à des mouvements beaucoup plus établis. Donc, en conclusion, les lettrés intellectuels chinois de la fin de l'Empire et encore dans une large mesure au cours du XXe siècle, en ce début du XXIe siècle, ont développé une sétoriologie qui leur accorde à eux-mêmes, en tant que membres des élites, en tant que lettrés, un rôle crucial dans le destin de l'humanité et, d'une certaine façon, un rôle collectif de sauveur. Cette sotériologie lettrée, elle s'accommode de rapports fluctuants avec les trois enseignements, les trois religions, bouddhisme, taoïsme, confucianisme. Parfois, l'un ou l'autre peut être davantage mis en exergue, mais les trois sont en réalité toujours présents, à la fois en termes d'identité revendiquée, donc certains de ces groupes se disent confucianistes, beaucoup d'entre eux, en fait, au cours du XXe siècle, et certains vont se dire plutôt taoïstes ou bouddhistes, les éléments objectifs que l'on peut repérer, bouddhistes, taoïstes et confucéens, dans ces groupes et dans leurs textes, dans leurs pratiques, sont toujours très nombreux, et les interactions avec les temples, avec les institutions de ces trois religions, sont également variables, mais souvent très, très nourries. Donc, cette soteriologie vise à imposer donc un ordre moral sur la société, ordre moral qui, je crois, soutient la comparaison avec le puritanisme anglais du 7e, 18e siècle. Et il lit de façon très intéressante l'espoir de devenir un dieu, essentiellement sous des formes taoïstes, pas uniquement, mais c'est essentiellement un cadre taoïste qui définit l'au-delà et la bureaucratie divine, et la façon dont on peut accéder, et donc faire son salut, qui est d'échapper aux punitions divines en accédant au rang de la bureaucratie divine. Donc devenir un dieu et échapper individuellement ou collectivement aux désastres et aux punitions divines. Cette soteriologie explique, contribue en tout cas, je crois, de façon très intéressante, à expliquer les attitudes et les réactions des élites pendant les temps de crise, les guerres, les désastres, les changements de régime, et permet aussi de mieux comprendre les pratiques spirituelles individuelles, souvent mal documentées par les sources historiques parce que cela relève de l'intime de la personne, mais qui, quand on a accès à des sources ou à l'observation de terrain pour les personnalités contemporaines, se révèlent beaucoup plus riches et intenses qu'on ne le pense souvent. Et de plus, cette soteriologie qui a tant fleuri, qui a tant produit de textes à la fin de l'époque impériale, continue à être pertinente au XXe siècle pour trois raisons, et ce sera mon dernier point. D'une part, toute cette tradition, donc très multiforme, très peu structurée, mais omniprésente dans la société chinoise, a été la matrice immédiate de la formation de grands mouvements religieux au cours du début du XXe siècle, donc dès les débuts de l'époque républicaine, quand les obstacles que l'État impérial dressait sur la possibilité des groupes religieux de se structurer et de former de vastes structures que l'État impérial jugeait menaçantes et donc indésirables, quand ces obstacles ont été levés, très rapidement cette tradition a suscité de vastes mouvements religieux, eux extrêmement structurés, très modernes, comptant souvent plusieurs dizaines de millions de membres, qui s'étendaient à l'ensemble du monde chinois, donc dépassant très largement les frontières de la République de Chine, et dont certains, donc ces groupes que l'historiographie de nos jours appelle les sociétés rédemptrices, bon, le terme peut se discuter, mais il évoque cette dimension eschatologique qui est très présente dans leur message. Et certaines de ces sociétés rédemptrices sont encore très actives aujourd'hui, je pense au Yiguandao, qui est une des grandes religions chinoises à l'échelle internationale. On compte 4 ou 5 temples Yiguandao à Paris, en banlieue parisienne. C'est-à-dire que c'est vraiment présent partout dans le monde chinois. Oui, a été la matrice aussi d'autres groupes qui ont pu se développer depuis une trentaine d'années, qui sont peut-être un petit peu détachés de ce modèle-là, mais qui en gardent de nombreuses traces. De façon beaucoup plus diffuse, la tradition eschatologique reste très vivante, comme je l'évoquais tout à l'heure, et à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle ou une menace, disons dans la conjoncture politique, très très forte, ces discours reviennent de façon très forte dans le discours social, dans les médias, dans les discussions des personnes, parfois de façon peu élaborée, voire peu cohérente, intellectuellement ou doctrinalement, mais ces idées-là sont extrêmement présentes. Et je crois qu'on en voit encore une autre trace de cette sotériologie lettrée dans la croyance extrêmement forte qu'ont encore, toujours, si on peut dire, les élites chinoises, du fait qu'en tant même qu'élite, elles ont un devoir de sauver la société par une réforme morale et par une amélioration de la qualité morale des individus, qu'elles en ont le devoir et qu'elles en ont également la possibilité. Donc avec une dimension relativement utopique de ce projet, et dont on voit des expressions sous toutes les formes, allant de projets relevant des politiques publiques jusqu'à des initiatives issues de ce qu'on peut appeler la société civile. Je m'arrête là et je vous remercie très vivement de votre attention.
Toutes ces précisions qui sont très importantes et il faudrait évidemment développer beaucoup. Je me permets, comme nous avons un certain nombre de questions, mais pas trop cependant, je me permets de commencer par poser deux questions. Vous parlez de médium, de production de textes de morale par des médiums. Alors, quand il y a une écriture inspirée, qui est l'inspirateur? Qui est derrière, en fait? Je suppose qu'il n'y a pas de transcendance, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous parlez de punition divine, de salut. Quel est cet autre monde? Mais ça me conduit au fond, à poser, quand vous parlez de surveillance divine, tout ça est flou. Ça me conduit en fait à poser la question, est-ce que les lettrés y croient? Au sens où Paul Venn écrit un livre, vous savez, les Grecs anciens croyaient-ils à leurs mythes? Bon, les mythes n'étant pas des vérités, les mythes étant ni vrais ni faux. Donc ça me conduit à vous poser la question de la vérité. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des vérités ou des mythes? Anne Cheng a parlé de cette question dans la préface de son Histoire de la pensée chinoise. Deuxième question. Vous parlez de confession. Il y a aussi une confession chez les Égyptiens, comme nous savons. Est-ce que ça signifie qu'il y a une conscience personnelle? On se demande comment il peut y avoir une confession s'il n'y a pas une conscience personnelle. Or, je suis étonnée, quand on va dans des colloques avec des philosophes en Chine, immédiatement, on se fait littéralement ramasser de façon extrêmement virulente et d'ailleurs honnête. Et moi, ça me plaît d'ailleurs, parce qu'au moins, il n'y a pas d'hypocrisie, par des Chinois qui vous disent « Mais vous êtes complètement grotesque avec votre histoire de personne humaine, ça n'existe pas. » Donc, je ne vois pas bien comment il peut y avoir une confession s'il n'y a pas de conscience personnelle et de personne. Voilà, c'est la question que je pose. Je donne la parole pour commencer à Jean Béchler.
Merci madame. Monsieur Gossard, je suis un de vos lecteurs les plus assidus et je suis constamment en attente du Gossard nouveau. Parce que grâce à vous, et ce n'est pas un compliment académique, j'ai commencé à avoir le sentiment que je pouvais éventuellement y comprendre quelque chose au phénomène religieux en Chine. Mais je ne suis pas déjà parvenu à comprendre. Et je crois que je pourrais résumer mon incompréhension très profonde, qui ne tient pas à mon incompréhension du fait religieux, parce que je n'ai absolument aucun problème ni avec l'Inde, ni avec l'Asie antérieure, ni avec l'Amérique précolombienne, ni avec l'Afrique, c'est avec la Chine. Et je relèverai trois points en forme de question. Premièrement, quel est le statut ontologique des divinités ou des divinisés? Deuxièmement, quel est le concept de religion, je dis bien concept et pas conception, le concept de religion qu'il faut retenir pour repérer dans les affaires chinoises des faits que l'on puisse qualifier de religieux? Ce concept est-il propre à la Chine ou bien est-il le même que celui que l'on trouve avec des amodiations mineures en Inde et en Asie antérieure? Et troisièmement, quelle est la fin de l'engagement religieux? Vous avez parlé de sotériologie et vous avez distingué cinq des fins ou des objectifs ou des buts. Le perfectionnement, ça n'est pas proprement religieux. Je conçois parfaitement un perfectionnement séculier. La morale puritaine, encore mieux, ça peut être parfaitement séculier. Le ritualisme, là c'est un peu plus religieux, mais c'est pas exclusivement religieux. Je peux non seulement imaginer, mais constater des ritualismes séculiers. La divinisation de soi, on est renvoyé à ce qu'il faut entendre, quel est le statut ontologique des divinités. Et enfin, l'eschatologie apocalyptique, les écologistes sont des eschatologistes apocalyptiques, et c'est pas particulièrement religieux. Et donc, je suis très sérieux sur ces trois points. Donc, l'ontologie, la religion en tant que concept et le salut, que faut-il entendre par là en Chine? Je vous assure que je ne comprends pas. Mais vous avez compris, donc vous allez m'expliquer. Merci.
Merci beaucoup. Chers confrères, vous êtes à présent 8, donc je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Thierry de Montbrial.
Merci, Madame le Président. Quatre brèves, très brèves questions. La première, il y a quelques années, certains de nos confrères s'en souviennent sans doute, Régis Debray était venu ici avec un intitulé qui était tout simplement « Dieu ». Et il nous avait dit « Les Chinois n'ont pas besoin de Dieu », ce qui avait surpris un certain nombre d'entre nous. Mais je pense que cette question est liée un peu à celle que vous avez vous-même posée, et également que Jean Béchler, enfin les questions de Jean Béchler, parce que finalement, c'est qu'appelons-nous Dieu?
Exactement. Bon,
et parce que c'est ça la question. Mais enfin, pour quelqu'un comme moi, il est évident que les Chinois croient en Dieu. Mais simplement, le problème, c'est ce que nous entendons par Dieu. Alors donc, ceci est une question. Notre communicant, Régis Debray, a-t-il dit une bêtise? Alors, deuxièmement, Là, vous avez parlé surtout du taoïsme, et puis vous avez ensuite montré qu'il y avait beaucoup de d'interpénétration entre avec le confucianisme et le bouddhisme. Moi, je me souviens, on m'enseignait jadis, quand on est jeune, on est confucianiste, quand on est mûr, on est taoïste, et quand on vieillit, on devient bouddhiste. Et finalement, ce sont trois variantes d'une même culture religieuse. Et c'est la question que je voulais vous poser, parce que vous avez très bien montré dans beaucoup de passages de votre exposé qu'il y a beaucoup de flou dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de passage, de connexion, etc. Et au fond, peut-on dire que ces trois dimensions, le confucianisme, taoïsme, bouddhisme, sont finalement ne forment qu'un quelque part et sont indissociables. Et donc, en ce sens, il n'y aurait qu'une seule vision de la transcendance ou de la religion. Alors, troisièmement, j'ai presque fini. Je suis comme très frappé. Pourquoi XIIe siècle? Pourquoi est-ce que ça commence au XIIe siècle et pas avant? On n'a vraiment aucune trace de ces phénomènes. Et ceci m'amène au dernier point sur la médiumité. Je ne sais pas comment il faut dire, d'ailleurs. Médiumité, on peut dire comme ça. Et c'est un phénomène qui existe pas partout, y compris pas loin de chez nous. Beaucoup de gens le pratiquent, si j'ose dire. Et est-ce que ces textes dont vous venez de nous dire, qu'on commençait vraiment à les connaître, surtout depuis 20 ans, qu'ils constituent une richesse énorme, etc., est-ce qu'on a commencé à les étudier suffisamment près pour essayer pour établir des passages ou des liens avec des formes analogues dans d'autres traditions religieuses?
Merci, Pierre Delvolvé.
Madame la Présidente, nous avons eu un exposé très intéressant sur certains aspects des religions en Chine, dont je ne dirais pas que ce sont des religions nouvelles, mais si j'ai bien compris, il y a un mouvement assez important dans la société qui continue à rénover certaines pratiques et plus encore certaines pensées. Mais pour un exposé sur la situation des religions en Chine, je veux dire que j'ai quelques questions complémentaires à poser. D'abord sur les religions asiatiques que vous avez évoquées au passage, confucianisme, bouddhisme, taoïsme. Mais en tant que tels, avec leurs institutions, leurs rites, leurs représentations, ils sont, me semble-t-il, mais je ne suis pas spécialiste de la Chine et pas spécialiste des religions, me semble-t-il que dans la période contemporaine, alors que du temps de la révolution culturelle notamment, ces mouvements religieux ont pu être repoussés, il y a une certaine faveur du pouvoir politique à leur égard, et je voudrais vous poser la question de savoir si c'est exact. Avec un problème particulier s'agissant du bouddhisme tibétain, qui est très important, et qui soulève des problèmes politiques importants compte tenu précisément du Tibet. Ça, c'est ma première question s'agissant de ce que j'appellerais les religions asiatiques. Et il y a les autres, desquelles j'ai peut-être été inattentif, et pardonnez-moi, desquels je ne crois pas avoir entendu parler dans un exposé sur la situation des religions en Chine. Je veux parler de la religion chrétienne, de la religion islamique, et peut-être de la religion hébraïque, mais dont la position en Chine me paraît moins délicate, ou peut-être totalement absente. Mais s'agissant du christianisme, vous avez commencé votre histoire au XIIe siècle, et c'est effectivement au XIIe siècle que les franciscains sont venus pour la première fois en Chine, précédente ainsi les jésuites et Matteo Ricci. Et si on regarde la situation comme quelqu'un qui a passé quelques jours en Chine, il y a un élément très frappant. À Pékin, il y a une sorte de quadrilatère entre la cité interdite et la place Tiananmen, avec d'un côté la cathédrale du Nord, la cathédrale du Sud, et de l'autre la cathédrale de l'Est. Modeste par rapport aux événements, aux monuments que constitue le centre de Pékin. Mais c'est assez significatif. Et à Shanghai, je parle de ce que j'ai vécu, vous avez une cathédrale importante de style néo-gothique, et ce sont des cathédrales que j'ai un peu pratiquées, où précisément on voit un culte de la religion catholique, mais exactement identique, et avec plus de ferveur encore que le culte catholique qu'il m'arrive de pratiquer à Paris ou en province. Avec la messe du Concile de Vatican II, avec des communions nombreuses, avec des confessions qu'on ne fait plus en France, avec à l'entrée des églises le portrait des nouveaux saints, Jean-Paul II, J'en 23. Et la seule chose qui me manquait pour comprendre l'office, c'est le chinois. Mais pour le reste, c'était exactement ce que je peux suivre à Saint-Thomas d'Aquin, à Paris. En contrepoint, j'ai une autre expérience d'un jeune séminariste chinois à Paris, qui avait tout son séminaire à Paris, qui devait être ordonné prêtre, mais dans l'église souterraine à Pékin, et on m'a bien recommandé de ne pas essayer d'aller assister à son ordination. Alors, il y a manifestement une sorte de soutien de l'église officielle qui fleurit, qui est riche, qui est illuminée. Il y a des décors, il y a des fleurs, enfin, il y a du monde. Et il y a également une église souterraine, me dit-on, mais je ne la connais pas. Alors, ce que j'aimerais savoir, dans un exposé sur la situation des religions en Chine, quelle est la situation des églises chrétiennes? Parce qu'il y a également les évangélistes qui, en Chine, en Asie, comme en Afrique, ont un développement considérable. Et j'aimerais savoir aussi, dans un exposé sur la situation des religions en Chine, quel est le développement de ces églises et quelle est la position du pouvoir politique. Il reste un problème politique extrêmement sensible et qui conduit quelquefois à des situations violentes, c'est politico-religieux, c'est l'islam, avec la question des Ouïghours, qui ont posé quand même quelques bombes pour réclamer leur indépendance. Ce n'est pas religieux, mais c'est quand même très lié à religieux. Alors ma question est la suivante, quelle est la position, la situation des églises chrétiennes en Chine, quelle est la situation de l'islam en Chine?
Merci. Chers amis, soyez brefs, s'il vous plaît. Philippe Levillain.
Oui, cher monsieur, c'est la deuxième fois que je vous écoute avec autant de bonheur et de plaisir. Ce que je ne connais pas la Chine, à mon grand âme, c'est le hasard de la vie. Je voudrais poser une question sur un certain nombre de propos que vous avez tenus et qui m'ont intrigué, dont je serai bref, comme il est recommandé par Madame le Président. Qu'est-ce que vous entendez par bureaucratie divine ? C'est un mot qui, pour moi, aurait une résonance un peu plus large que le problème du taoïsme, parce qu'une bureaucratie divine, ça pose la question de la place de Dieu par rapport à ses acolytes, et comment les acolytes décident. Et je dirais que vous anticipez merveilleusement le discours que je tiendrai sur la curie la semaine prochaine.
Ah oui. Bon.
Je voudrais d'autre part savoir, si vous permettez de vous adresser deux ou trois questions comme ça, un peu en vrac, comment sont désignés ces groupes d'adresses privilégiées? Enfin, c'est une sorte d'inspiration préalable et ça rappelle quand même quelque chose qui ressemble, je dirais, à une inspiration pneumatique, comme on dirait dans le langage de l'Évangile, qui fait que certains se sentent plus proches de ces divinités appuyées par la bureaucratie que d'autres. Je suis passionné par l'idée de divinisation. Je trouve que c'est beau, c'est sain, c'est heureux, mais ça se fait comment? Par prescription reconnue par un état des lieux, par, je dirais, une sorte de fiche que l'on coche au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a un mode? Est-ce qu'il y a un procès, comme il existe dans l'Église romaine? Est-ce que, le procès de béatification, c'est ce qu'on y est instruit? Voilà, j'aimerais savoir ça. Je trouve que d'autre part, dans ce que vous appelez la sotériologie, qui est un mot que je n'aime pas du tout, et que je reparlerai volontiers s'il n'était pas aussi barbare, il y a quelque chose qui se rapproche du jansénisme. Alors vous savez que les anglo-saxons, dans l'histoire des religions, ont inventé ce terme de « in between ». C'est-à-dire qu'on est dedans, on est entre nous, mais hors de nous. Bon. Alors, je trouve qu'il y a des points de contact entre les formes d'existence, de ce qu'on peut appeler, comme dirait Régis Debray, le fait religieux, je dirais plutôt le sentiment religieux, qui sont très intéressantes. Enfin, dernière question, je voudrais vous poser la question sur la notion de destin. Le destin est quand même un mot qui, vous savez, a donné lieu à beaucoup d'interprétations. Est-ce qu'il est fatal? Est-ce qu'au contraire, on fait son destin? Il y a un bel opéra de Verdi qui s'appelle « La force du destin ». Bon, mais ceci étant, comment est-ce qu'on peut concilier une religion, donc une aspiration, une sotériologie, comme vous dites, avec un destin? Le destin, c'est aussi ce qui marque les jansénismes en particulier. Il y a ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas. Donc ces points de contact m'intéressent beaucoup par rapport, finalement, comme l'a dit mon confrère Pierre Desbrouilles tout à l'heure, non pas les religions en Chine, mais un type d'expression religieuse en Chine, me semble-t-il. Je ne crois pas diminuer du tout la valeur de votre exposé, au contraire. Merci.
Merci. Alain Besançon. Alain.
Merci, Monsieur le Président. Moi, j'étais... Madame le Président, pardon, excusez-moi, monsieur. Oui, un point de curiosité d'un ignorant. Quand on, et comme je suis ignorant, je pensais, disons, à des points de comparaison. Et pour nous, Européens, nous pensons au stoïcisme, évidemment, où nous trouvons des tas de choses communes. Moins l'idée de destin individuel. Or, je voudrais vous poser simplement la question, c'est que nous avons des enfers dans le bouddhisme, ça c'est attesté. Mais y a-t-il des enfers dans le taoïsme et dans le confucianisme? Voilà, c'est tout.
Merci. Jean-David Lévite.
Merci Madame le Président. Moi aussi j'étais passionné par cet exposé. Très brièvement, comment concrètement l'équipe dirigeante actuelle, celle de Xi Jinping, se situe-t-elle par rapport aux religions traditionnelles chinoises? Est-ce qu'elle s'en sert? Est-ce qu'elles y voient une menace? Merci beaucoup.
Merci. Mireille Delmas-Marty, il y a quelqu'un d'autre?
Merci, Madame le Président. Oui, j'étais moi aussi très intéressée, et notamment par le rapprochement que vous avez fait entre, d'un côté, l'optimisme sur le destin individuel et le pessimisme sur le destin collectif. Mais alors, je me suis demandé comment vous situez une figure comme celle de Kang Youé et sa théorie de la grande unité, qui, à première vue, me semble plutôt du côté optimiste, puisqu'on nous décrit l'évolution de l'humanité en trois âges, le grand désordre, la paix ascendante et la grande paix qui est annoncée. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un texte qui est purement politique et qui, à ce moment-là, introduirait ce dont vous avez parlé tout à fait à la fin, c'est-à-dire une sorte d'esprit utopique et qui se sépare complètement de la vision religieuse? Ou bien est-ce que vous voyez les choses autrement? Et puis, je rejoins mes confrères pour m'interroger aussi sur la liberté de religion dans la Chine actuelle.
Merci. Jacques Delarosière.
Oui, je serai très bref parce que vous avez tous évoqué ce que j'avais à l'esprit. Non, je vais juste le dire de ma manière très rapidement. Ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit fort, fort remarquablement, c'est qu'au fond, il y a des milliers d'inspirés, si je peux les appeler ainsi, qui écrivent des textes sous inspiration. Et la question que j'ai, c'est la suivante. Est-ce que l'ensemble de ces textes constitue une unité, ou en tout cas un ensemble homogène? Autrement dit, derrière ces textes, y a-t-il, si on fait l'effort de la définir, une sorte de révélation? Ça, c'est ma question, mais qui rejoint tout à fait celle de Chantal Delsol au début. Et puis, la deuxième, c'est celle qui a été évoquée par plusieurs d'entre vous. Étant donné l'importance qui s'attache dans cette pensée médiumnique au destin individuel, au destin collectif, à la morale, au perfectionnement de soi, est-ce que tout ça ne conduirait pas normalement à des rapports avec la religion chrétienne?
Merci. Enfin, Jean-Claude Trichet.
Merci beaucoup, Madame le Président. J'ai été moi-même passionné, comme Jacques Delarosière, comme nous tous. Première question, vous avez parlé de bureaucratie divine. J'ai cru comprendre que l'empereur lui-même avait la capacité de modifier les rangs dans la bureaucratie divine, éventuellement de faire entrer de nouveaux bienheureux ou de nouveaux dieux. Comment cela fonctionne-t-il actuellement, puisque nous n'avons plus d'empereur? Est-ce que le pouvoir actuel a une interface avec cette bureaucratie divine ou pas? Deuxième, alors, question ultra naïve. Moi, je croyais naïvement que le confucianisme était essentiellement une philosophie et que le bouddhisme et le taoïsme étaient des religions, d'ailleurs un peu complémentaires, comme on le voit au Japon, non contradictoires, complémentaires. Donc je m'étais complètement trompé sur le confucianisme, dont je vois que Confucius est lui-même un dieu qui est, semble-t-il, dans la bureaucratie dont vous avez parlé. Et donc ce sont des questions ultra naïves. Dernière question sur le vocabulaire. Mon vocabulaire à moi serait que On peut être bien heureux, on peut être un saint, on peut être au paradis. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ce que vous appelez des dieux, devenir un dieu? Est-ce que ce serait l'équivalent pour nous d'aller au paradis, être bien heureux, être béatifié ou canonisé? Est-ce que c'est devenir un dieu au sens chinois? Bien entendu, pour nous, ce n'est pas devenir dieu, c'est être un saint ou un bienheureux. Et bref, est-ce qu'il y a des points de passage entre le vocabulaire chinois et le vocabulaire auquel nous sommes plus accoutumés?
Merci. Alors, in extremis, ultime question d'André Vacheron. De grâce, André.
Très, très brève question. La différence entre taoïsme et bouddhisme. Merci.
Bon, monsieur, je vous demandais de ne pas dépasser une vingtaine de minutes pour répondre.
Pour l'ensemble?
Pour l'ensemble, comme vous le souhaitez, en hiérarchisant à votre goût.
Bien, je suis très vivement reconnaissant de ces questions et je pense que j'espère que vous me pardonnerez de ne pas réussir en 20 minutes à donner une réponse complète et satisfaisante à l'ensemble d'entre elles, même si certaines se rejoignent d'une certaine façon. J'essaierai de les prendre peut-être dans l'ordre dans lequel elles ont été posées, en commençant par celle de Madame le Président. Évidemment, question cruciale, qui est l'auteur de ce texte, qui parle, hein, qui est derrière le médium, est-ce que les gens y croient? Toutes ces personnes prises dans ce que j'aimerais appeler un mouvement de réforme morale, d'écriture inspirée, de révélation, ont fourni et continuent à produire un discours sur la véracité, sur l'authenticité. Donc il y a une grande réflexivité qui est tout à fait passionnante à observer dans les textes, dans les discours contemporains. Une attitude très largement répandue, et je ne veux pas en faire quelque chose de normatif, dire que c'est comme cela et pas autrement. Il y a des gens qui sont qui rejettent l'ensemble, au contraire qui sont très très pieux, mais une attitude très largement répandue, donc peut-être majoritaire, très courante, est de dire que cela existe. Les dieux, alors je reviendrai sur ce terme bien sûr, les dieux parlent aux humains, peuvent posséder un humain et communiquer au travers lui. Les dieux parlent aux humains, cela existe. Mais il existe de très nombreux cas de faux, avec toutes sortes de situations intermédiaires. Certains médiums reconnaissent plus ou moins ouvertement qu'à certains moments, ils n'y arrivent pas, ils ne sont pas vraiment possédés, donc ils font semblant. On peut légitimement considérer, bien sûr, que les dieux n'existent pas, même si le scientifique n'a pas à prendre position, enfin, sur l'autologie. Bon. Mais peu importe. On peut tout à fait considérer que les dieux n'existent pas et que les médiums sont plus ou moins doués. C'est un problème majeur pour tous ces groupes que d'arriver à trouver un médium doué, c'est-à-dire un médium qui produit des textes intéressants, parce que si les textes sont simplement répétitifs et n'ont aucun intérêt, les gens se lassent, très naturellement, et à produire des textes qui ont une certaine orthodoxie. Hein. La question était posée aussi de savoir si tous ces textes ont une certaine cohérence. Et ils ont une certaine cohérence dans la mesure où ils restent, il y a des variations internes extrêmement fortes, bien entendu, entre les groupes, entre les inspirations, entre les époques, entre les régions. Bon. Mais il y a une certaine cohérence parce qu'il y a certainement des textes qui sont produits au-delà des limites de cette cohérence et qui sont rejetés. Donc quand un médium produit un texte qui est jugé douteux, une anecdote très amusante et assez connue est celui du médium qui commence à produire des révélations par lequel le dieu dit « Votre médium est quelqu'un de vraiment très bien, il faudra lui acheter une belle maison et une belle voiture. » Bon, voilà. L'exemple est caricatural, bien entendu, mais voilà, dans ce type de situation, le médium est remercié et on en cherche un autre. Voilà. Donc voilà, mais si ça se produit sur un terrain un peu plus intéressant, qui serait un terrain doctrinal plutôt qu'un terrain de simple enrichissement personnel, la même chose se produirait. On a au fond assez peu de traces. Les documents historiques qu'on a, ce sont ceux qui ont réussi, qui ont passé le test de la crédibilité, de l'orthodoxie, telle qu'elle est estimée par un consensus, parce que tout cela est très peu structuré. Donc les textes qui ont été transmis, qui ont été publiés, sont ceux qui ont été considérés comme authentiques. Et dans le processus de canonisation que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout ce travail qui est à l'œuvre. On examine, alors, genre les groupes qui compilent les canons, ils incluent leurs propres textes, bien sûr, mais ils vont inclure tout ce qui a été produit avant. Et dans les textes qui sont produits avant, ils font un travail critique. Ils considèrent, voilà, tel groupe a produit un texte au nom de notre divinité, mais ça nous semble un peu douteux, donc on ne va pas le retenir. Voilà. Donc il y a beaucoup de débats là-dessus. Donc il y a le, voilà, l'idée qu'on y croit, mais on laisse en permanence à l'œuvre un examen critique en disant qu'il y a du vrai, il y a du faux. Et c'est à nous, en tant qu'humains, donc ça laisse c'est aussi pour ça que les lettrés aiment ce type d'exercice, c'est que ça leur laisse une part importante, un rôle actif dans la production de la norme, dans la production de la doctrine, par le biais de ce jugement de ce qui est correct, de ce qui n'est pas correct, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Donc ils y croient, certainement, mais ils sont très ouverts à l'esprit critique, non pas pas tant sur le principe que sur des cas précis. Confession et conscience personnelle. Je suis persuadé qu'il y a une conscience personnelle, qu'il y a des exercices qui relèvent de la confession, mais qu'elle s'exerce dans le cadre de l'intime, mais que ce qui est ritualisé, c'est une confession collective et donc qui s'élève au niveau du général. Certains prêtres qui, je pense notamment aux prêtres taoïstes, que je connais un peu mieux, mais c'est la même chose pour les bouddhistes, on va dire, on ne convoque pas les dieux pour leur demander de nous écouter, pour leur demander d'accorder leur pardon, pour leur raconter les petits détails de « hier j'ai été gourmand, j'ai repris une part de gâteau » ou « avant-hier j'ai fait ceci, cela ». C'est pas respectueux envers les dieux. On leur demande collectivement de nous absoudre de toutes nos fautes, sans rentrer dans le détail, parce qu'ils le savent déjà parfaitement. Voilà. Donc à ce niveau-là, on peut dire qu'il n'y a pas de conscience personnelle, mais il y a une conscience personnelle qui s'exerce à un autre niveau qui est celui de l'intime, avec notamment, ce n'est pas la seule forme, mais c'est une forme importante, l'exercice de ce qu'on appelle le registre des mérites et démérites, qui est pour les lettrés, de nombreux lettrés tenaient ce type de cahier, où ils notent chaque jour tout ce qu'ils ont fait, les bonnes et les mauvaises actions, et il les mesure. Donc il y a un aspect très comptable qui a évidemment beaucoup donné à lieu à ironie, à parodie, etc. Mais qui est néanmoins le moyen par lequel on arrive à tenir, à faire sens de cette masse de notes que l'on prend sur ses propres actions quotidiennes. Donc les lettrés faisaient ça. Un exemple très intéressant, le seul exemple que je prendrais pour pas déborder mon temps de parole, mais personnage fascinant, Zheng Guofan, le général qui a vaincu les Taiping, pour dire les choses de façon très simple, c'est lui qui a sauvé l'empire des Qing, si l'on veut, en plein dans une guerre qui est une guerre sans merci, une guerre sanglante, où sa vie est en permanence en danger, il tient un journal quotidien où il note tous les jours ses bonnes et ses mauvaises actions et fait le compte de son mérite devant les dieux. Donc ce sont des choses, parce qu'il pense que ça a un impact immédiat sur son destin et donc sur le destin de l'humanité, puisqu'il a ce rôle de, voilà, d'une certaine façon, la société est entre ses mains. Alors, ça nous amène à la question du destin. Le mot chinois pour destin est un mot double, mingyun, où le ming désigne la part qui est fixée à la naissance, et le deuxième terme, yun, concerne la part où l'individu a le contrôle. C'est ce qui peut être modifié par ses actions. Et tous ces livres de morale disent en permanence, il y a des paramètres, on est né d'une certaine façon, ce qui justifie tout le travail de la divination, qui est un travail qui est massif et permanent dans la société chinoise, savoir quels sont les paramètres qui sont fixés, mais que l'on peut modifier, en certaine mesure, par ses propres actions. Le statut ontologique des divinités. Alors, je vais répondre en taoïste, si vous me le permettez, en donnant les linéaments les plus simples de l'explication taoïste de la chose. Ce n'est pas que je préfère spécialement les taoïstes, même si c'est un peu cela aussi, c'est que c'est essentiellement la théologie taoïste qui dessine les contours et le fonctionnement de l'autre monde tel que le voient les lettrés à l'époque moderne et contemporaine. Il y a des éléments confuciens, des éléments bouddhistes, mais c'est essentiellement la théologie taoïste qui est au cœur de cette compréhension de l'autre monde. Donc je pense que c'est par là qu'il faut commencer pour répondre à cette question très ambitieuse. Et l'ontologie taoïste, c'est qu'il y a deux éléments, deux parties de l'autre monde. Il y a la partie Alors, la pertinence de ces termes dans ce contexte-là est discutable, mais pour aller droit à l'essentiel, une partie transcendante, une partie immanente. La partie transcendante, ce sont les divinités supérieures qui sont les forces du cosmos. Elles ne sont pas touchées, modifiées, elles ne sont pas liées à l'évolution, elles ne sont pas liées par le temps. Elles existent en dehors du temps. Et elles n'ont jamais été incarnées. Et il y a la partie inférieure, qu'on appelle la partie donc après la création, avant la création, après la création, qui, elle, est composée de personnes divinisées, qui ont été nommées dans des fonctions qui sont des fonctions administratives, donc c'est la bureaucratie divine, bureaucratie céleste, si on veut. J'utilise les deux termes de façon synonyme. Qui sont des humains qui ont vécu et qui ont donc un nom, une date, une forme, une histoire, ce que n'ont pas les divinités transcendantes, qui sont de pures émanations du Tao, donc des entités cosmiques. Simplement, il existe des passerelles entre les deux, et un certain nombre de dieux, donc de l'après la création, donc qui ont une image, un nom, une date d'anniversaire, une histoire, etc., sont considérés comme des émanations de divinités transcendantes. Donc cette coupure, elle existe, elle est très claire théologiquement dans les textes taoïstes, mais elle, dans la pratique, elle n'est pas si tranchée que cela. Voilà. Alors, les divinités de cette partie inférieure du panthéon, ce qu'on appelle après la création, protienne, ou divinité immanente, si l'on veut, on peut parfaitement, et ça rejoint la question sur le vocabulaire, les appeler des saints. Je le ferai très volontiers. L'argument ici est purement pragmatique. Je constate dans la pratique que ça crée ça suscite des mécompréhensions. Pour des raisons que je ne perçois pas très clairement, pas suffisamment clairement, il me semble que le terme de Dieu est plus naturel, en tout cas est plus habituel dans le discours scientifique. Les deux termes se justifient. Le terme de saint se justifie pleinement, parce qu'effectivement, ils sont nommés au terme d'un processus de canonisation. Simplement, ils ont des fonctions effectives. Ils ont une autonomie de décision. Des divinités très élevées dans le panthéon, comme celles qui produisent de très nombreux textes à l'époque moderne et contemporaine, Guan Di, Wen Chong, Lu Zhu, ont une très grande autonomie d'action. Ils en réfèrent en permanence au ciel. Le nom taoïste est empereur de jade, confucianiste est le ciel. On l'appelle aussi Shangdi, l'empereur d'en haut, qui est un des termes qui a été choisi pour traduire Dieu au moment où on a traduit la Bible. Pas le seul, mais l'un des termes. C'est un des termes qui continue à être utilisé dans certaines traditions chrétiennes en Chine, pas toutes. Ces divinités le ciel, qui se trouve à l'interface entre les deux parties du panthéon, la partie transcendante et immanente. Donc là, on arrive à quelque chose d'un petit peu complexe. Mais les divinités que j'évoquais tout à l'heure, même si ce sont des humains défunts, divinisés, donc, qui appartiennent à la partie après la création du panthéon, ont malgré tout, et ils réfèrent au ciel, ont une très grande latitude d'action et une autonomie d'action. Ce sont eux qui mettent en place, qui décident de leur propre initiative et mettent en place des plans de salut de l'humanité. Et donc, les qualifier de saints ne rend peut-être pas pleinement compte de leur capacité d'action dans l'autre monde. En ce qui concerne la question de Monsieur Devolvé, alors j'ai certainement pas été assez explicite là-dessus et je vous prie sincèrement de m'en excuser. Comme j'étais venu assez récemment, enfin un peu plus de deux ans, tenter de dresser un panorama général des religions en Chine, et à ce moment-là, j'avais évoqué et on avait continué à évoqué dans la discussion le cas du christianisme et de l'islam, je m'étais permis aujourd'hui de parler de recherches un peu plus personnelles, un peu plus récentes, et de consacrer mon exposé à un aspect qui me semble important et relativement peu connu, mais qui n'est bien sûr qu'un aspect de la question religieuse en Chine, et donc bien entendu je n'avais pas du tout la prétention d'apporter des lumières sur les questions du christianisme et de l'islam dans le monde chinois contemporain, mais je suis tout à fait heureux d'avoir l'occasion de les évoquer très rapidement, malheureusement. Les cultes catholiques protestants sont fervents. Vous avez à la fois dans leurs formes officielles reconnues par l'État et dans leurs formes non officielles, sachant que la frontière entre les deux est parfois très poreuse. Et ceci aussi bien dans le cas de l'Église catholique, avec l'Église patriotique d'un côté et l'Église souterraine de l'autre, que dans le cas protestant, qui connaît une configuration relativement similaire, mais seulement relativement. Il y a des cas de conflit, et encore tout récemment, où des évêques de l'Église souterraine ont été emprisonnés. Et dans certains lieux, la tension entre les deux communautés est très forte, elles ne se parlent pas. Mais il y a beaucoup d'autres lieux, la majorité des évêques sont en fait reconnus à la fois par le Vatican et reconnus par l'Église patriotique. Et donc il y a des endroits où les deux communautés se confondent presque, ou en tout cas sont en rapport tout à fait étroit. Et il en va de même dans le monde protestant, où il y a des églises, parmi ce qu'on appelle le mouvement des églises de maison, qui sont en situation de refus complet de l'Église patriotique, mais également de très nombreuses situations intermédiaires où des membres d'églises de maison vont aller au culte à l'église, au temple de l'Église patriotique, parce que là, ce sont effectivement de grands édifices, les bâtiments sont beaux, il y a une foule, il y a une ferveur collective, il y a la beauté des chants, voilà. Et ils vont également fréquenter des églises de maison parce que on trouve là quelque chose d'autre, peut-être une plus grande exigence morale, une plus grande pureté de la foi, ou d'autres éléments encore. Donc beaucoup de personnes circulent entre les deux. Mais il est vrai que cette situation continue à être tendu, y compris au sein des communautés catholiques chinoises à Paris, où il y a eu des prêtres qui viennent de l'église dite souterraine et d'autres qui viennent de l'église officielle, avec des résultats, si on peut dire, en tout cas une réception de la part des paroissiens très variable. Et voilà, pour dire les choses un peu crûment, l'expérience de faire venir un prêtre venant de l'église officielle n'a pas été jugée par les paroissiens comme une initiative couronnée de succès. Vous aviez également une question sur la faveur du pouvoir politique pour les religions traditionnelles, ou disons installées de très très longue date dans le monde chinois, donc essentiellement les trois enseignements, bouddhisme, confucianisme, taoïsme. Il est très clair qu'on a une réorientation politique très nette depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, et qui tend à s'accélérer depuis quelques années. Au niveau du pouvoir central, ça n'est évidemment pas exprimé en tant que tel. Certains cadres au niveau local, par exemple les fonctionnaires du bureau des affaires religieuses qui gèrent ces questions-là dans les communautés locales, dans le cadre de discussions personnelles, le diront beaucoup plus franchement. Il y a une volonté de se rendre compte que le fait de réprimer les religions traditionnelles, donc bouddhisme, taoïsme, confucianisme, et aussi tous les cultes locaux qui en fait forment la majorité, qui forment le socle de l'organisation socio-religieuse de la Chine, que tous ces formes religieuses ont été réprimées au cours du XXe siècle, et que c'était sans doute une erreur, et qu'elles sont largement attestataires plutôt que contestataires par rapport au pouvoir en place, quel qu'il soit, et qu'ils ont un rôle avéré de stabilisation de la société, de diffusion de valeurs morales, et que donc beaucoup de ces fonctionnaires visent à favoriser à nouveau ce type les temples dieux locaux, les monastères bouddhistes, les temples taoïstes, pour tenter de faire pièce à l'essor du christianisme, essentiellement sous ses formes évangéliques. La gestion du religieux est relativement décentralisée aujourd'hui en Chine, et donc ce qu'on peut observer sur le terrain est en fait assez variable d'un endroit à l'autre. Il y a des endroits où on semble ne pas être totalement sorti de l'ère maoïste de ce point de vue-là, et donc les autorités locales restent très hostiles à la réouverture de temples, et d'autres au contraire, où elles s'y investissent avec beaucoup d'enthousiasme et vont financer, ou les autorités locales vont financer la construction ou la reconstruction de temples aux divinités locales ou aux saints locaux, si on veut les appeler par ce terme. Donc il y a aussi une très très grande variété régionale liée à la personnalité des fonctionnaires locaux qui gèrent ces questions-là. Pour prendre le cas du confucianisme, il révèle bien ses ambiguïtés et ses variations. C'est-à-dire que, d'une part, le gouvernement de Xi Jinping, mais ça avait commencé avant lui, tend à valoriser de plus en plus sa culture traditionnelle, ce qui n'est pas la même chose que le confucianisme, et à faire un usage de plus en plus large de symboles issus du confucianisme, de notions, de termes, d'idées, de concepts, de valeurs morales, identifiées à tort ou à raison comme confucianistes. Mais on voit aussi, et peut-être surtout, des mouvements de la base qui se méfient d'une possible volonté de la part de l'État de les récupérer et qui ne veulent pas s'associer à une politique décidée à Pékin qui serait de remettre au goût du jour le confucianisme, ses valeurs et ses pratiques et ses rituels. Donc il y a tout un continuum allant de grandes cérémonies d'État, par exemple pour l'anniversaire de Confucius, des grandes cérémonies très largement financées, médiatisées, et où on invite beaucoup de monde, jusqu'à des initiatives locales qui se méfient beaucoup de l'État et qui se revendiquent plutôt d'un confucianisme très puriste, avec un projet éducatif et religieux qui entend rester à distance d'un projet politique. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur ces points, j'espère avoir donné quelques éléments de réponse. Il y a encore de nombreuses questions que je n'ai pas abordées.
Oui, je crois qu'il doit être difficile de répondre à tout, mais si vous pouvez terminer dans les 5 minutes. Là,
5 minutes, oui. Très bien. Je vous remercie. Alors, les questions de M. Dombria, bouddhisme, taoïsme, confucianisme, les trois âges de la vie, oui, c'est une observation très, très exacte. Les rôles dans la famille aussi. On s'aperçoit que il y a les répartitions religieuses à l'intérieur de la famille qui sont très intéressantes. La mère est très souvent bouddhiste. Voilà, comme dans le célèbre roman Le rêve dans le pavillon rouge, la mère est bouddhiste, le père est confucianiste et le fils est taoïste. Est-ce qu'ils ne forment qu'un ? Non, parce que je crois qu'il faut être à cet égard méfiant par rapport à un terme qui est beaucoup utilisé et me semble-t-il parfois abusivement, qui est celui de syncrétisme. Dans certains mouvements, on assiste effectivement, dans certains cas précis, à du syncrétisme, avec l'idée, et c'est presque toujours des mouvements qui sont issus des groupes religieux qui sont issus du monde de l'écriture inspirée que j'essayais d'évoquer avec vous aujourd'hui. Le Iguandao, par exemple, est une religion syncrétique. Le discours d'Iguandao est de dire, il y a eu des saints, des prophètes, qui ont révélé certaines traditions religieuses, bouddhisme, confucianisme, taoïsme, islam, christianisme, ce sont des enseignements corrects qui donnent accès au salut, mais qui sont dépassés. Notre enseignement regroupe tout cela et le dépasse. Voilà. Ça, c'est du syncrétisme, au sens propre du terme. Ce que font la plupart des Chinois, y compris les membres des élites, qu'elles soient de l'époque impériale ou de l'époque contemporaine, relève d'une autre attitude, qui est de dire cette tradition-là, elles ont leurs institutions qui doivent continuer à exister de façon autonome. Qu'il faut que les écoles, les séminaires, les académies, les monastères, quel que soit le terme qu'on leur donne, c'est-à-dire que les centres de formation bouddhistes, taoïstes et confucianistes, continuent leur tradition. Il ne faut pas qu'elles se mêlent. Il faut que leurs textes, que leurs rituels, que leurs pratiques, que leurs techniques de salut, méditation, etc., puissent continuer à être transmis de façon pure. Il ne faut pas qu'elles se perdent dans quelque chose qui serait un mélange. Simplement, elles sont également valables et chaque individu peut les conjoindre dans sa pratique personnelle et suivant les contextes ou suivant les cas. Voilà. Pourquoi le XIIe siècle ? C'est une excellente question. C'est le moment auquel on voit apparaître des descriptions claires de cette technique de révélation et des textes produits par cette technique de révélation. Il existait auparavant d'autres techniques pour révéler des textes. Certains historiens ont dit ce n'est qu'au fond un accident de l'histoire, une sorte de modification, ça relève de la technique, ça relève pas de la substance, et donc on peut mettre l'écriture inspirée dans une histoire beaucoup plus longue des techniques de communication entre les dieux et les hommes et de révélation des textes. Il est vrai que qu'il y a cette longue histoire existe, elle est pertinente pour l'histoire des idées, pour l'analyse des textes, mais je pense que la technique de l'écriture inspirée, la technique a un rapport avec le contenu de ce qui est révélé. La façon dont on produit un texte entretient des rapports avec le contenu et la portée intellectuelle du texte. Et donc cette nouvelle technique, elle met, de par son fonctionnement, les élites lettrées, surtout les petits lettrés locaux, au centre de la production d'un discours religieux, un discours moral et religieux. Et donc elle est liée à une vision eschatologique du monde, elle est liée à un espoir de divinisation de soi, elle est liée à l'idée que les élites vont réformer moralement la société. Voilà. Et ce XIIe siècle est aussi le moment où, avec l'essor des examens impériaux, enfin des examens de recrutement hein, dans la fonction mandarinale, examens impériaux, avec l'imprimerie, et donc l'essor spectaculaire de l'alphabétisation et de la diffusion des livres, on a un très grand nombre de lettrés qui ont une formation classique, qui se présentent aux examens, mais qui ne peuvent pas accéder à la fonction mandarinale, et qui donc cherchent un rôle dans la société. Et ce mouvement d'écriture inspirée est une des réponses à ce besoin. Ils ont un rôle qui est un rôle d'éducation morale, qui est pour certains, prend une coloration très eschatologique, un rôle de salut de la société, au travers de leur action de voilà, servir d'intermédiaire entre les dieux et la société humaine, et de produire des textes. Oui, le procès pour divinisation. Et voilà, je vous prie de m'excuser si je prends les questions un peu en les piochant dans cette longue liste de belles questions, et si je ne peux pas répondre à tout. Mais cette question de la procès pour divinisation est particulièrement intéressante parce que il y a, au fond, deux grandes voies d'accès au statut de Dieu. Il y a la voie qui est, disons, la voie normale et en même temps la voie longue, avec un processus qui peut vraiment se comparer au procès en canonisation de l'Église catholique, où une demande est faite et instruite, une sorte de procès est mené. On demande des preuves des miracles accomplis, on demande des détails fiables, documentés, sur la vie du saint, c'est-à-dire la vie de la personne que l'on veut canoniser. Et à la fois la bureaucratie de l'Empire et l'Église taoïste, souvent de façon conjointe, en coopération, vont examiner ces pièces et vont prendre une décision. L'accepter ou rejeter la demande et donner un titre. Ce qui est intéressant, c'est que ce titre est en fait une entrée, parce que c'est comme c'est l'idée d'une cette bureaucratie est une méritocratie, elle compte de nombreux échelons. Donc une fois qu'on accède au monde des dieux, donc on a un titre qui est un titre généralement très bas, une sorte de dieu de premier rang, enfin de rang inférieur, on peut ensuite progresser. Donc il y a tout un barème, tous des processus qui permettent, si la divinité est efficace, continue à faire des miracles, apporter son assistance aux populations, on peut continuer à progresser. Donc il y a ces procédures très normalisées et éprouvées au cours du temps qui permettent de nommer des défunts à l'intérieur du panthéon de la bureaucratie divine. Et puis, il y a aussi une sorte de voie courte qui est précisément fourni par l'écriture inspirée. Un médium est possédé, va révéler un texte disant « Par moi, l'empereur de Jade, par édit impérial », enfin, des termes très précis pour désigner ce type de décision divine, parce qu'ils sont des textes de type bureaucratique, hein, voilà, il y a un langage, un format très, très codifié, très précis, « Je nomme telle personne au titre de vice-chancelier du bureau de la promotion, de la punition des fautes et de la récompense des bonnes actions voilà. ». Là, il n'y a pas de procédé de vérification, il n'y a pas de procès en canonisation. Et de nombreux lettrés, tout au long de l'époque moderne et contemporaine, ont écrit des textes, tenu des propos très critiques envers l'écriture inspirée, parce que précisément, elle ouvre grand les portes à des canonisations en masse, si l'on peut dire, et non contrôlées. Et c'est la plupart des dieux qu'on voit dans les temples locaux, et voilà, le dieu a tel titre. Alors, comment on savait qu'il a eu tel titre? Est-ce que c'est l'État qui est impérial qui, à un moment donné, a donné ce titre-là? Non, c'est venu directement de l'empereur de Jade, par l'écriture inspirée. Donc ça laisse une très grande latitude, une très grande liberté de promotion ou d'autopromotion, si l'on veut, interne à la bureaucratie divine, avec très peu de contrôle, ce qui donne lieu aussi à de nombreux débats, mais aussi à des formes de régulation. Et c'est cette question de la régulation interne de la société chinoise, comment elle contrôle la prolifération de ces dieux, encore une fois, dieux ou saints, suivant les termes qu'on choisit d'utiliser, c'est un très beau sujet à part entière qui donnera peut-être l'occasion d'un autre exposé.
Merci beaucoup. Nous avons conscience de l'immensité du sujet, mais votre communication remarquable va nous pousser à retourner à vos textes. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup.